Cassonade, c'est un endroit particulier à Bruxelles. Un resto solidaire et participatif qui existe grâce à une équipe principalement bénévole. Chaque semaine, elle prépare des plats pour plusieurs centaines de personnes.
Ça, c'est l'Algérie magnifique.
Ah oui, j'ai pas encore goûté ça. L'autre, oui, j'ai déjà goûté, mais ça...
C'est quelqu'un déjà payé pour vous, vous payez pour le prochain. Il n'y a pas un prix. Chacun met ce qu'il veut. Aussi, il y a des gens qui n'ont pas le moyen, qui peuvent manger gratuitement.
C'est ici que j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, notamment africaine et afro-descendante. D'abord, en venant y manger. Et puis en passant la porte de la cuisine de Fatima et ses collègues. Et elles m'ont permis de m'y balader avec mon micro et de capter les coulisses de la préparation des repas. Plus que des recettes et des techniques de cuisson, ce qui m'intéresse, c'est ce que ces cuisines racontent de nous. Ce qu'elles disent de notre histoire. Celle de l'Afrique, de la Belgique, de toutes les personnes qui ont migré ici. Et des diasporas qui ne connaissent quasi que Bruxelles ou la Wallonie. À travers ce documentaire sonore, je t'invite à découvrir la façon dont nos parents et grands-parents ont innové pour continuer à préparer et transmettre leurs recettes traditionnelles dans une société qui ne connaissait pas leurs épices, leurs féculents ou leurs fruits. Je t'emmènerai aussi à la rencontre de la nouvelle génération qui se réapproprie ces cuisines, les fait évoluer et donc exister.
Tu vas bien ?
Ça va, toi ? Merci de m'accueillir.
Moi, je vais faire un chai pour tout te dire.
Ok.
Ici, on est à Outamou. C'est un café de spécialité qu'on a fondé avec 3-4 cousins.
Roger Douchimé, curateur culinaire, chef en devenir, et co-réalisateur du documentaire Roots and Plates, une histoire de la cuisine afro en Belgique.
Quand on parle de cuisine africaine, en fait, moi, j'entends forcément l'Afrique des 54 ou 55, j'oublie toujours le nombre, de pays que compose l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique continentale, ça va de Tanger au Cap, de Lagos à Mombasa. Voilà, c'est comme tu disais, la cuisine asiatique. Et en fait, le problème, c'est que dans l'imaginaire des gens, on ne comprend pas que l'Asie, ça va de... presque Istanbul à Tokyo, quoi. Donc c'est beaucoup de choses, hein, la cuisine asiatique, dans les faits, si on parle d'un point de vue continental et très géographique. Sur la question, quand on dit les cuisines afro-descendantes, en fait, ça demande à se poser la question comment on définit l'afro-descendance. Et en fait, il y a deux définitions. Il y a une définition qui dit que toutes les personnes africaines sont afro-descendantes, et donc ça comprend l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, donc en gros les arabo-musulmans, ou plutôt arabo-berbéro-musulmans. Oui, non, je sais très bien, au nord, et les subsahariens, dit vulgairement les noirs subsahariens. C'est juste que quand on dit aussi afro-descendants, en fait, il y a une autre définition qui est une définition où, en fait, on dit les personnes qui seraient afro-descendantes, c'est les gens qui, de manière historique, ont un lien à travers l'Afrique, aussi au regard de la colonisation, de l'esclavage, et qu'ils auraient un héritage lié à l'intersection de ces trois notions-là. Et donc, ça permet d'inclure dans les afro-descendants aussi les personnes qui sont déportées à travers l'esclavage, etc., ou l'immigration, et la colonisation, enfin bref, dans les Caraïbes, dans d'autres territoires d'ailleurs, on va être un peu partout dans le monde. Et donc, afro-descendants, et on utilise ça, par exemple, pour notamment les Brésiliens, où ils seraient à peu près, je sais pas, peut-être 10 millions, j'ai peur de dire une bêtise comme ça, mais en tout cas, beaucoup de millions de gens en Amérique latine, notamment au Brésil, et qui sont des personnes afro-descendants. Ils sont pas des personnes africaines, parce qu'en fait, elles le sont plus depuis 3 siècles, mais ils ont une africanité héritée, et qui s'est transmise, et donc, ils descendent de là. Souvent, quand on dit afro-descendants, c'est en vérité pour dire les Noirs et les descendants de personnes noires de manière très large. L'afro-descendance, c'est la question générale. La question diasporique, ça concerne à peu près tout le monde, Et ça, ça n'a rien à voir avec la question d'être afro, enfin la question afro, si je peux dire ça comme ça. C'est le dérivé de diaspora. Donc, si on vient d'un pays X ou Y, que ce soit la Roumanie, le Rwanda, la Sierra Leone, le Panama ou j'en sais rien, et qu'on migre dans un autre pays, on devient une diaspora. Et donc, dire afro-diasporique, c'est comment une cuisine qui vient d'un endroit se retrouve dans un autre endroit et donc devient, pour moi, un fait diasporique. Donc, je prends un exemple des Camerounais qui sont au Cameroun, ben, ils ont la cuisine camerounaise, ils migrent en tant qu'étudiants à Lille, ils font la cuisine camerounaise dans un contexte diasporique. Et donc, dans un certain temps, pour moi, c'est juste de la cuisine camerounaise dans un contexte diasporique. Peut-être après un certain temps, avec le temps, l'installation, le changement, etc., peut devenir pour moi une cuisine diasporique parce qu'en fait, elle s'installe durablement et de manière significative dans un contexte diasporique et donc elle ne se pense plus que comme une cuisine camerounaise vu qu'elle n'est plus totalement au Cameroun en fait. Donc pour moi, c'est là où je mets une nuance.
Le meilleur plat africain, tchep.
Le madessou, les haricots. Les haricots avec du riz.
C'est du pondu et haricots, avec du riz, avec des foufou. C'est mon lait.
C'est les pondu, les madessou avec les makayabou, avec les maboumou. Tout on mange chez nous avec les chikwang.
C'est le yassa, sauce yassa, avec du bon poisson et tout, voilà.
Oulala, moi, c'est la base. Tous les Congolais aiment ça. Et les pondu. Et les beignets, nous on aime bien les beignets aussi. Beignets, dans les fêtes congolais, beignets, ça c'est la base. Pour commencer à manger, quoi.
Une des cuisines les plus importantes qu'il y a en Belgique, c'est la cuisine congolaise. Parce qu'en fait, il y a énormément de Congolais en Belgique pour plein de raisons, notamment la question historique. Et que, en fait, dans beaucoup de familles belges, en fait, il y a certains qui ont connu le Congo, et ont une certaine nostalgie du Congo, etc. Et donc, en fait, certains restaurants, dans un certain cas, pouvaient permettre, en fait, de garder ce lien-là, parce qu'en fait, comme il y a une migration congolaise et qu'il y a des gens qui ont connu le Congo, ben, en fait, les deux ont intérêt à retrouver des produits du Congo pour retrouver ce goût du pays quitté, enfin, tout ce qu'on veut. Et donc, il y a ces restaurants-là, mais il y en a d'autres, en fait, parce qu'il y a plein d'autres vagues migratoires, issues d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et, une autre chose, c'est la cuisine éthiopienne, mais ça, c'est pour moi assez un mystère, parce qu'en fait, la cuisine éthiopienne, dans beaucoup de pays d'Europe, en fait, elle est toujours quasiment en numéro un. Perso, je pense que c'est juste parce que l'Éthiopie a peut-être quelque chose comme une cuisine assez différente de ce qu'on peut trouver en Afrique noire, subsaharienne, de manière assez majoritaire. Et aussi, je pense qu'il y a un fait d'entrepreneuriat aussi éthiopien, sans doute, parce qu'en fait, je suis étonné, mais de voir que qu'on soit en Suisse, qu'on soit en machin, on va sur TripAdvisor ou je sais pas quoi, et on tape restaurant africain, le numéro un, c'est toujours un restaurant éthiopien. C'est un truc de fou. Et je pense, perso aussi, que dans l'impensé occidental, en fait, l'Éthiopie, ben, c'est l'Afrique, mais l'Éthiopie, c'est un côté un peu mystère, machin, je sais pas très bien quoi. Alors que l'Afrique noire, c'est les Zoulous, les gens avec les flèches et les machettes. Et donc, non, mais c'est vrai. Donc, je crois qu'il y a ce truc-là. Si on va en Europe et qu'on va jusqu'en Afrique, ben en fait, on arrive au Maghreb, on est dans une cuisine maghrébine, mais qui est en vérité aussi une cuisine méditerranéenne. Si on est plus à l'est, on est dans une cuisine plutôt levantine. Si on descend, on arrive sur l'Éthiopie et on est sur une cuisine qui a un mix entre l'arabité d'un côté, l'Afrique de l'autre et ce particularisme éthiopien. Et puis, quand on arrive en Afrique noire, en fait, là, on est dans une autre type de cuisine. Et c'est là où, en fait, là, l'inconnu arrive.
La Belgique, c'est très particulier. Dans l'Afrique subsaharienne, ça va être le Congo qui domine, parce qu'il y a une histoire indéniable entre le Congo et la Belgique.
Sandrine Vasselin-Kabunga, chasseuse d'épices et créatrice de la marque Misao et de la Maison des Poivres à Bruxelles.
Les autres communautés de l'Afrique subsaharienne, ici, leur cuisine, sont un peu plus marginales. Quand je regarde le nord de l'Afrique, je vais avoir principalement le Maroc. Le Maroc va dominer parce qu'il y a une histoire aussi de migration marocaine. Après, on va avoir tout le reste, un peu algérien, un peu tunisien, minoritairement égyptien. Et puis, si on commence à aller un peu plus autour, bah oui, on va avoir un peu, en Afrique subsaharienne, un peu du Mozambique, un peu de l'Angola, un peu du Sénégal, un peu de Cameroun, etc. etc. Donc, ça va vraiment refléter ces flux migratoires, mais je pense que ce qui domine, ça va être d'abord les cuisines congolaises Et puis tu montes un peu pas loin d'ici, t'as le quartier Matongé, où tu vas retrouver beaucoup de communautés d'Afrique subsaharienne, mais c'est le Congo qui domine. Et souvent on oublie qu'il y a des restaurants sénégalais, il y a des restaurants rwandais, il y a des restaurants malgaches, il y a camerounais, il y a de tout quoi.
Le processus migratoire des Marocains, il est en fait plus ancien que ce que l'on croit. On retrouve une présence marocaine déjà dans la période de l'entre-deux-guerres en Belgique et qui est en fait liée principalement aux flux migratoires qui sont dirigés d'abord vers la France et puis alors qui vont indirectement en fait se localiser notamment dans les charbonnages belges.
Hajar Oulad Ben Taïeb, historienne et socio-anthropologue à l'UC Louvain, Saint-Louis.
À part ça, effectivement, on a cette fameuse année 1964 qui est utilisée un peu comme cette année, un peu symbolique, parce qu'il y a un accord bilatéral qui est signé entre le Maroc et la Belgique et qui stipule l'envoi d'une main-d'œuvre exclusivement masculine, mais avec une disposition juridique qui est celle du regroupement familial et qui permet donc à ces hommes de faire venir leurs femmes et leurs enfants. Mais il faut bien entendu voir dans cet accord-là vraiment un cadre plutôt qui va servir à organiser la présence marocaine en Belgique, mais qui n'exclut pas en fait l'arrivée de familles marocaines en dehors de ce cadre. Donc ça se fait très bien avant 1964 et après 1964. Donc on a vraiment cette configuration de familles marocaines qui arrivent dans le cadre de l'accord et en dehors du cadre de l'accord. Et on peut parler quand même d'une première phase de l'immigration qui correspond en fait à l'immigration officielle de travail, parce que c'est une période donc qui s'étend de 1964 à 1974 où le gouvernement va encourager la venue de ces familles, que ce soit du Maroc, mais aussi de la Turquie. Et puis alors, précédemment, on a aussi forcément des accords aussi qui sont signés avec d'autres pays européens. Et donc, on parle dans ce cadre-là de l'immigration de travail. Concernant le profil des familles qui arrivent dans le cadre de l'immigration de travail, mais ce sont essentiellement des personnes qui fuient des conditions de misère dans le cadre de leur pays d'origine et donc qui sont essentiellement issus de milieux ruraux, de populations aussi qui sont originaires du nord du Maroc essentiellement, donc des régions de Tanger, Tétouan, du Rif, hein, Nador, El Hoceima, donc les grandes villes du nord. Des personnes qui quittent des conditions de vie difficiles, qui viennent rechercher du travail, qui viennent fuir aussi la misère et puis aussi qui ont cet espoir de pouvoir participer aussi à la réussite de leur famille, ici de la famille nucléaire qu'ils ramènent avec eux en Belgique, mais aussi de leur famille qui reste au pays, donc qui sont quelque part aussi responsables. Ils prennent en charge aussi les besoins de leur famille d'origine, donc restée au Maroc. Et qui sont là dans une perspective essentiellement temporaire. Dans cette période 64-74, l'immigration, elle est pensée comme étant temporaire. Et donc, il y a quelque part très peu d'investissement dans ce pays qui est considéré comme un pays transitoire, comme une étape dans ce parcours, et qui fait qu'effectivement, il y a, dans cette période 64-74, de la part de ces familles, un projet qui est tourné vers le retour et qui limite énormément les investissements, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau des projets en termes, par exemple, de perspectives de la nationalité ou des développements de lieux de socialisation. En tout cas, un projet qui est imaginé, pensé au départ comme étant temporaire et puis qui va se réorienter progressivement.
La relation au Congo-Rwanda-Burundi, pour prendre ce cas-là, en précisant que le Rwanda et le Burundi étaient d'anciennes colonies allemandes qui ont été données après à la Belgique dans le cadre de la répartition des vainqueurs après la Première Guerre européenne, eh bien, il n'y a pas eu de mouvement du même type. C'est-à-dire que les migrations n'ont pas été sollicitées.
Moïse Esso, membre fondateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations.
Et donc, ce sont des migrations individuelles et volontaires. Or, le projet de vie de tous les Africains du sud du Sahara à cette époque-là, à ces époques des années 40-50, n'est pas de vivre en Europe. Et donc, cette migration est anecdotique, on va dire. Il n'y a pas de mouvement de migration de masse. Il y a des migrations de formation, donc des étudiants. Essentiellement, ce sont des étudiants. Et donc, il y avait beaucoup de migrations très temporaires Alors, c'est seulement à partir des années 60 que des migrations, que les gens commencent à rester, surtout ceux qui mènent un combat contre les nouvelles, les néocolonies qui s'installent dans leur pays d'origine. Mais pour le cas du Congo, il n'y en avait pas. Beaucoup ont commencé plutôt à sortir après les années 61-62. C'est donc une immigration qui ne représente à ce moment-là pas un nombre énorme par rapport à l'immigration marocaine qui commence dans les années, fin des années 60, début des années 70.
Fin des années 50.
Début fin des années 50 60. Déjà en Belgique, ouais. Voilà. Mm-hmm. Et c'est arrêté en 70, elle s'est arrêtée en 74 notamment.
Officiellement, c'est ça.
Donc à ce moment-là, le ratio dans le fait migratoire de présence des Congolais, Rwandais et Burundais était très faible. Après, évidemment, fin des années 70-70, début des, il y a la crise pétrolière et les économies des pays d'Afrique commencent à chuter. Là, on commence à voir des étudiants qui ne rentrent pas et qui commencent à s'installer. Parce que la première immigration, c'est souvent ça. Ce sont des étudiants qui restaient ou du personnel d'ambassade qui fuitait au moment de retourner. Et donc, on a une population, et c'est pour ça que malheureusement, au début des années 90, lorsqu'on a commencé les premières grandes régularisations de personnes sans papier, il y avait beaucoup de Congolais qui étaient là depuis 15 ans, parfois 20 ans. Il y a des générations d'enfants, j'en connais personnellement, qui ont été sans papier jusqu'à leurs 15 ans, qui ne pouvaient pas faire de voyage scolaire parce qu'ils n'avaient pas de passeport, parce qu'ils ne pouvaient pas... Parce que ce sont les enfants de ces Congolais qui eux-mêmes étaient restés sans papier, mais quand il n'y avait pas une politique d'immigration de renvoi, parce que bon, beaucoup demandaient l'asile politique, parfois ça durait avant qu'ils l'obtiennent, certains ne l'obtenaient pas, mais ils étaient là. Et donc, la première vague de régularisation date des années 99 par là. J'ai participé à cette lutte-là à l'époque, tout jeune. Et donc, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient là depuis très longtemps, dont les enfants étaient nés ici, déclarés à la commune, mais qui n'avaient pas de papier au sens... donc, ils allaient à l'école et tout ça, mais ils n'avaient pas de titre de séjour. Et donc, toute cette immigration-là, ou cette migration, a commencé à s'accumuler quand la situation a commencé à devenir difficile au pays. Quand rentrant, on n'était pas sûr d'avoir du travail. Et donc, petit à petit, la communauté congolaise, un peu moins rwandaise et burundaise, a commencé à grandir ici, mais plutôt comme une manière forcée, parce que le plan de vie ne permettait pas de s'enrichir sur place. Parce qu'entre-temps, le Congo aussi chutait. Parce que fin des années 90, on sait très bien que Mobutu, son régime est finissant. Il y a plein de crises économiques, un chômage endémique. Et donc, forcément, ceux qui sont ici, à qui les autres demandent tout le temps d'envoyer 10 francs belges, ils ont très bien compris que s'ils rentrent sur place, ils n'auront rien. Donc, ils commencent à rester. Et c'est cette migration qui commence à s'accumuler petit à petit. Et c'est comme ça que la communauté congolaise grandit en Belgique, non pas comme le fruit d'une politique volontariste de la Belgique, mais comme le fruit d'un changement de conditions de vie dans le pays d'origine et ici, qui font que les gens restent. Et c'est d'ailleurs, si vous voyez, ou si tu vois dans les statistiques de discrimination, on le disait souvent, les Congolais étaient surdiplômés par rapport à leur emploi. Parce que l'une des façons de rester en situation régulière, c'était de multiplier les diplômes. D'où le fait que beaucoup ont fait beaucoup d'études. On disait même profession étudiant. Au point que certains jeunes aujourd'hui ne veulent surtout pas faire de grandes études parce qu'ils ont vu leur père tout le temps avoir des grands diplômes et finir quand même comme brancardier. Je connais des gens qui ont fait des diplômes de dentisterie, mais qui n'ont pas pu exercer et qui sont devenus des musiciens. Aussi parce qu'en Belgique, il y a eu une politique hyper discriminatoire jusqu'en 1993, où tous ceux qui faisaient des études de médecine, de pharmacie, de dentisterie et d'autres métiers comme ingénieurs avaient ce qu'on appelait le diplôme à titre scientifique, qui signifiait qu'ils n'avaient pas le droit de travailler en Belgique, alors qu'ils avaient fait exactement les mêmes études que les autres, passé les mêmes examens, fait les mêmes travaux pratiques, fait les mêmes stages. Et à la fin, ils avaient le diplôme de médecin. Mais on disait à titre scientifique, sous-entendu, légalement, il y avait le diplôme légal et le diplôme scientifique. Un jeune Congolais qui était peut-être naturalisé belge pouvait avoir le diplôme à titre légal. Son frère, qui n'avait pas de nationalité, l'avait à titre scientifique. Et ce n'est qu'après 1993 qu'il y a eu une loi, parce qu'il y avait besoin de pénurie, il y avait pénurie. C'est comme ça qu'on a régularisé tous ceux qui étaient restés sur le territoire et qui pouvaient encore démontrer qu'ils avaient les capacités.
Donc ça c'est
un gâteau
pâte feuilletée, mais ici on ne sait pas comment ça s'appelle, mais on dit un gâteau TikTok. Une fois, moi j'ai mis dans TikTok un dessert pas cher, facile.
Et
j'ai trouvé ça. Et vraiment, c'était dans le menu du mois passé, c'était un succès ici. Tout le monde l'a aimé. Donc, il n'y a pas le nom, il y a un gâteau de TikTok.
C'est très bien aussi,
le trouve. Non, mais tu dis pas baklawa. Baklawa. Oui, mais c'est pas moi. C'est ça, c'est triche. Je triche. Je ne peux pas dire Fatima, sinon je triche.
Non, il faut trouver un nom quand même, parce que TikTok, ça ne peut pas très...
Gâteau succès des cassons, là, c'est tout. Attends, je vais diminuer un petit peu.
La cuisine maghrébine, de manière générale, est très différente, en fait, de la cuisine d'Afrique subsaharienne. Parce qu'en fait, c'est comme si on était dans deux familles différentes, en termes de marqueurs de goût. Après, il y a une intersection, c'est qu'en fait, quand on dit cuisine subsaharienne, c'est une manière un peu de généraliser. Mais en fait, l'intersection, c'est en fait toutes les cuisines sahéliennes, etc. En fait, où en fait, on a tout ce qui est couscous et machin. Donc, je connais pas extrêmement bien encore ces cuisines, mais de fait, tu as des endroits où des personnes noires font de la cuisine qui a l'air de pas être de la cuisine noire, en fait. C'est pour ça que quand on parle de cuisine noire dans l'absolu ou de la cuisine afro, ça veut pas dire grand chose. Parce que, un, déjà, il y a des personnes noires en Maroc, donc c'est une chose. Il y a une communauté d'ailleurs de personnes noires en Maroc. Donc, dire cuisine noire, en fait, c'est toujours, en fait, on caricature. C'est comme on dit cuisine française, ça veut rien dire, en fait. C'est un imaginaire, en fait, qu'on essaie de représenter. Moi, la proximité que je vois avec la cuisine marocaine classique et la cuisine... moi, je parle d'Afrique centrale, de manière générale, ou d'Afrique de l'Ouest. En vrai, pour moi, c'est des cuisines qu'on peut pas vraiment comparer parce que c'est des logiques différentes. Donc, un des marqueurs de goût, c'est par exemple la question de l'huile de palme. C'est qu'en fait, dans beaucoup de cuisines subsahariennes, mais beaucoup, pas toutes, mais beaucoup, il y a la présence de l'huile de palme. Et donc, on en trouve dans certains plats au Sénégal, on en trouve dans tous les plats un peu ghanéens, machin, jusqu'au Cameroun, on en trouve dans l'Afrique centrale, on en trouve peut-être à l'exception, c'est peut-être l'Afrique du Sud, des choses comme ça, mais à vérifier. Ça, c'est un marqueur de goût qui existe. Les feuilles de manioc, je suis pas certain qu'il y ait de la culture de feuilles de manioc ou de la consommation de feuilles de manioc de manière générale dans les pays du Maghreb et de manière précise au Maroc. Certaines céréales aussi, mais ça, c'est encore un truc, mais tout ce qui est le mil, le sorgho, les choses comme ça. En fait, c'est des choses qui, pour des raisons à la fois historiques, à la fois géographiques, à la fois climatiques, et des fois coloniales, structurent ces pays d'Afrique subsaharienne, parce que ça pousse là, parce que ça fait la culture, parce que ça répond à des besoins X, Y, qu'il n'y a pas en Afrique du Nord. Donc ça, c'est un marqueur de goût. Et puis, il y a la question des épices aussi. En fait, je pense qu'il y a pas mal d'épices, mais il y a des épices que une manière de les appréhender très différente dans la cuisine marocaine. Et en fait, que si on goûte, on va dire c'est la cuisine marocaine, mais si on le voit de manière un peu plus large, on va dire tiens, c'est la cuisine un peu maghrébine ou levantine, ou etc. Si tu mets le cumin, du paprika, la cardamone, tu es dans un champ gustatif différent. Et en vrai, cette association cumin, paprika, cardamone, en Afrique, on va dire, on pourra le mélanger, faire un sort de mélange pour faire du poulet. Mais si on le laisse que comme ça, pour moi, on fait un poulet qui va plus dans l'Afrique du Nord que l'Afrique centrale, si je peux dire. Par contre, si on l'associe à autre chose, là, on rentre peut-être dans un goût. Enfin, c'est un peu brouillant ce que je dis, mais c'est que il y a des goûts qui font penser à la cuisine méditerranéenne et des goûts qui font penser à l'Afrique centrale. Et donc, ouais, il y a des marqueurs de goût pour moi différents quand même.